chers collègues, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre nos discussions. Alors, je vous renouvelle encore une fois, d'abord, tous mes remerciements de participer à ce colloque organisé par les professeurs Berhamdan et Trochu, et vous renouvelle encore une fois tout le plaisir que j'ai à vous recevoir et à présider, notamment cet après-midi, donc cette deuxième demi-journée. Nous allons entendre trois communications, puisque ce matin, Daniel Bianchi est intervenu, donc n'interviendra pas, évidemment, cet après-midi. Trois communications qui vont se succéder, et à l'issue, nous aurons un petit moment pour les débats, qui sera ensuite suivi d'une pause avant de repartir sur une seconde session. Alors, nous allons commencer tout de suite par aborder une question importante, qui est le droit de l'investissement dans le Mercosur. Je remercie notre collègue Manuel Georges et Sylvain Netto, si je prononce mal, mais c'est son nom, et puis ma collègue et amie Isabelle Ancar, d'intervenir, donc en duo. Et bah, nous vous écoutons donc pour cette présentation du Mercosur et du droit de l'investissement. Merci.
Très bien.
Ah oui, pardonne-moi. Excuse-moi. Juste une annonce. Excuse-moi, Isabelle. Oui, juste une annonce. Ça me revient à l'instant même. En accord avec les organisateurs du colloque, je voudrais préciser deux points. La première, ça peut être été dit ce matin, mais il est prévu évidemment une publication des actes de ce colloque, très vraisemblablement dans le cadre de la revue du droit de l'Union européenne, qui est une revue que je dirige par ailleurs. Donc là, je laisse le soin à mes collègues de collecter les articles et nous ferons tout le travail de publication ultérieurement. Et seconde remarque, vous le savez, il y a une capture vidéo de ce colloque, l'intégralité de ce colloque, et je pense que d'ici une quinzaine de jours, trois semaines, le temps de monter tout cela, le colloque sera accessible sur un site dédié aux conférences universitaires que l'on vous communiquera tous. Et nous avons à la fois un réseau de diffusion purement universitaire, mais également un réseau de diffusion que Mme Picard a réussi à constituer en France, en Europe, y compris d'ailleurs en Asie, en particulier au Vietnam, auprès de cabinets d'avocats, notamment spécialistes en droit des investissements. Donc il y aura on va tenter de mettre en place une large diffusion européenne, internationale de cette manifestation. Donc double support, la publication des actes et puis la vidéo de ce colloque. Voilà, je te redonne la parole, Isabelle.
Merci Pierre-Yves. Donc nous allons faire un petit voyage dans le Mercosul. Et je suis ravie d'accueillir pour la deuxième fois, seconde sans doute, mon collègue Manuel qui vient de l'université partenaire de Salvador de Bahia. Nous avons organisé un colloque au mois d'avril. Il était professeur invité chez nous, un professeur invité de l'IRCHI. Donc c'est très intéressant de poursuivre les discussions sur l'investissement dans cette organisation, toujours dite organisation d'intégration, qui n'en a que le nom, je pense, puisque vous savez que c'est une organisation très peu intégrée, en fait, très peu intégrée sur le plan économique, très peu intégrée sur le plan juridique. Pas d'institution supranationale, pas de droit directement applicable dans votre Mercosur, là. Pour ce qui nous intéresse, l'établissement de liens possibles entre l'Union européenne et le Mercosur dans des conditions de confiance nouvelles, peut-être on va découvrir que le Mercosur a réfléchi à des modèles, je crois que ça a été dit déjà ce matin, entrevue avec notre collègue. Peut-être nous aurions intérêt à nous inspirer un petit peu de ce que fait le Brésil en ce moment, de ce qu'il propose. Ça va peut-être rester un petit peu théorique compte tenu du contexte politique, mais ce sera quand même un panorama de tous les liens juridiques du Mercosur et des États membres du Mercosur avec des institutions qui s'occupent du règlement des différends relatifs à l'investissement. Donc, à titre introductif, on peut rappeler que quand même, le Mercosur a connu des avancées importantes ces dernières années. Le commerce a été multiplié par 11 depuis 1991, alors que le commerce mondial n'a été multiplié que par 5 sur la même période. Le Mercosur a su se doter d'institutions, d'un parlement, même de fonds structurels, qui rappellent nos fonds structurels européens. Mais c'est vrai que les flux commerciaux entre États membres du Mercosur représentent assez peu, environ 14% du commerce extérieur des pays du bloc en 2016. On mentionne aussi le grand afflux d'investissements directs en provenance quand même des pays hautement développés et de la Chine, dans les pays du Mercosur. Mais Le taux d'ouverture du bloc n'est que de 27%. Ça, c'est le chiffre de 2015, pour un taux moyen mondial de 43%. Donc, il est en dessous, bien sûr, du taux d'ouverture moyen. Au sein du Mercosul, on a des États au profil bien différent, des histoires différentes, des cultures différentes. Donc, ce n'est pas étonnant que le mode de règlement des différents reflète ces divergences. On a quand même, je pense, une certaine convergence dans les intérêts à l'heure actuelle. Donc, d'un côté, on a le Brésil qui est relativement fermé par tradition, on peut vraiment dire ça. Et ça se mesure en termes de droits de douane, de règlement sur l'investissement. Mais le Brésil mise quand même sur les investissements étrangers, mais orienté au service de la recherche, de l'innovation. Il choisit. Et on sait que le Brésil est toujours en tête, depuis 2008, des États qui adoptent des mesures protectionnistes dans le commerce. Et cette politique s'est poursuivie, même s'il y a quelques assouplissements ces dernières années. Donc un pays, le Brésil, qui paraît assez réfractaire aux mécanismes internationaux de règlement des différends, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc attaché plutôt à la souveraineté économique traditionnelle et le Parlement en particulier y veille. Un autre État, l'Argentine, qui hérite d'un passé protectionniste, mais plus récent, puisqu'on voit que le taux d'ouverture qui était de 42% en 2002 a chuté à 23% en 2015, donc rejoignant finalement celui du Brésil. Donc c'est lié aux crises que l'Argentine a traversées. On voit que l'Argentine a préféré s'introvertir à ce moment-là et en venir aussi à des protections, à des politiques vraiment protectionnistes. Mais l'Argentine souhaite maintenant aussi s'ouvrir à nouveau comme le Brésil. Donc ils sont plus ou moins extravertis tous les deux. Donc les deux tendances qui m'apparaissent, c'est que le Mercosul se présente vraiment en ordre dispersé vis-à-vis des investissements étrangers, mais que des efforts sont faits ces dernières années, 2017 et jusqu'à maintenant, jusqu'à sur l'hypothèse du futur incertain du Brésil. Le Brésil et l'Argentine, mais le Brésil, c'est vrai, avec un rôle de leadership, je pense, propose quand même, a proposé très récemment une sorte de vision propre du mode de règlement des différends qui pourrait peut-être inspirer l'Union européenne. Donc je vous montrerai ensuite ces efforts d'intégration qui sont faits dans le cadre du Mercosul vis-à-vis des investissements, mais des investissements bien sûr croisés qui peuvent éventuellement servir de modèle pour l'accord UE-Mercosul. Donc un Mercosul en ordre dispersé. On peut regarder la position du Mercosul à l'OMC. On va faire un petit tour des institutions internationales, puisque l'OMC analyse, vous le savez, les politiques commerciales des États. C'est très intéressant de lire les rapports de l'OMC sur ce que fait le Brésil, sur ce que fait l'Argentine en matière d'investissement. Et puis, ça permettra de se pencher sur des différends relatifs à l'investissement au sein de l'OMC qui concerne ces pays. Concernant le CIRDI, là, le décalage apparaît. Il est flagrant puisqu'on a un pays, le Brésil, qui est absent du CIRDI et au contraire, l'Argentine qui a été complètement exposée et éprouvée au mode de règlement des différends du CIRDI. Donc, concernant l'OMC, tout d'abord, si on regarde l'examen des politiques commerciales, le rapport d'examen consacré au Brésil, que nous dit l'OMC ? L'OMC nous dit que l'économie brésilienne reste tournée vers le marché intérieur, que l'évolution du commerce international et de l'investissement étranger direct rend compte de l'importance inchangée de l'Union européenne, mais que la Chine est devenue, on l'a dit ce matin, le premier pays de destination des exportations brésiliennes de marchandises. Et inversement, le Brésil attire quand même des flux importants d'IED donc entrants. On nous dit aussi que le Brésil est ouvert à l'IED entrant, justement, qu'il l'encourage, mais on liste toutes ces protections qui sont assez impressionnantes, des interdictions concernant la participation étrangère dans beaucoup de secteurs, les services postaux, l'énergie nucléaire, des limitations en matière de transport aérien, d'institutions financières, de services de santé, d'acquisition des terres rurales, de radiodiffusion, édition, la pêche, etc., etc. Donc, vous voyez, ce catalogue de mesures protectionnistes, souligné, bien sûr, par l'Organisation mondiale du commerce, qui note en même temps que le Brésil s'engage dans des accords de l'OMC, puisque le Brésil a ratifié l'AFE, l'accord sur la facilitation des échanges, et a ratifié aussi le protocole sur les services financiers, le cinquième protocole. Donc on note quand même des gestes d'ouverture à l'égard du corpus de l'OMC. Côté Argentine, l'OMC relève la volonté d'ouverture à l'international, de ce pays à l'investissement. Et c'est vrai que la législation est quand même différente. L'investissement étranger est autorisé sans restriction dans tous les secteurs, à l'exception quand même de quelques domaines, mais moins nombreux que pour le Brésil. La loi sur l'investissement garantit le droit de rapatrier les capitaux investis et de transférer à l'étranger les bénéfices réalisés. Et il existe en Argentine des programmes d'incitation, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, des programmes d'incitation pour promouvoir l'investissement national et étranger. En ce qui concerne le règlement des différends en particulier, dans ce contexte-là, j'ai regardé toutes les affaires qui concernent les investissements à l'OMC. Donc sur 43 affaires qui citent l'accord MIC, qui est l'accord sur l'investissement en lien avec le commerce, on a 5 affaires qui concernent les relations entre l'UE et un État membre du Mercosur, assez peu. Et on peut isoler, j'ai regardé quelle était l'occurrence du mot Mercosul. Est-ce que c'est un réflexe pour le Brésil d'invoquer le droit du Mercosul dans ses différents au sein de l'OMC? Donc j'ai pu isoler 2 affaires, DS-472 et DS-438, où le Brésil est l'État défendeur contre l'Union européenne, c'est la première affaire, et où l'Argentine est l'État défendeur contre l'UE, c'est la seconde affaire. Donc dans la première, on voit que l'Union européenne demande l'ouverture de consultation au sujet justement de ces fameuses mesures, en l'occurrence des mesures de traitement fiscal dans le secteur automobile. Le groupe spécial analyse les mesures brésiliennes qui obligent donc les sociétés à investir, vous voyez, à cibler leur investissement dans la recherche et le développement avec des pourcentages, c'est très précis. Et le groupe spécial condamne le programme brésilien, c'est le fameux programme Innovar Auto, dont vous avez peut-être entendu parler, qui accorde justement un traitement moins favorable aux véhicules importés de l'UE et du Japon, d'ailleurs, que celui qui est accordé aux mêmes produits importés des pays du Mercosur et du Mexique. Et les experts n'ont pas trouvé de justification dans l'ACR, puisque le Mercosur a le statut d'accord commercial régional. Aucune argumentation n'a été défendable pour justifier justement ce traitement. On aurait pu imaginer que la clause d'habilitation, que ce soit justifié, mais non, on reste dans l'esprit OMC, on condamne ce genre de mesures. Donc c'est toute la politique brésilienne là qui a été finalement condamnée à travers le plan Innovar Auto. Et pour l'Argentine, c'est finalement le même cas de figure. On a une affaire aussi relativement récente où l'organe de règlement des différends est intervenu après, d'ailleurs, appel dans cette affaire. Les opérateurs économiques étaient tenus aussi à certaines contraintes d'investissement pour bénéficier de traitements particuliers. Et l'OMC, l'organe d'appel en l'occurrence, a condamné aussi la politique argentine. Donc ça, c'est un point commun. Concernant l'investissement, alors c'est peut-être une façon un peu indirecte d'aborder l'investissement. C'est par l'obligation d'investir, finalement, que des entreprises vont être condamnées à l'OMC. Si on regarde le CIRDI, du côté du CIRDI, donc le Brésil, lui, est absent du CIRDI. On sait que le Brésil n'a jamais signé la convention en 1965 sur le règlement des différends au CIRDI. Le Congrès national du Brésil a toujours considéré que tous ces risques d'arbitrage étaient une menace pour la souveraineté économique du Brésil. Donc on l'a dit aussi, tous les traités bilatéraux qui ont pu être préparés n'ont jamais été soumis au Congrès, donc n'ont pas été ratifiés par le Brésil par tradition. Et comme l'investissement fonctionnait bien, finalement c'est un argument pour le Brésil de dire que ce n'est pas la peine de s'engager, puisque ça fonctionne bien comme cela, ce n'est pas la peine de faire des efforts. L'Argentine, au contraire, était tout à fait exposée au CIRDI. Là, j'ai fait un recensement aussi de toutes les affaires. On recense 23 affaires opposant l'Argentine et un État membre de l'UE sur 45 affaires concernant ce pays, c'est-à-dire la moitié des affaires. Et on voit que l'Argentine, bien sûr, est toujours l'État défendeur dans ces affaires. Donc vous trouverez un tableau, si ça vous intéresse, plus précis de toutes ces affaires. Bon, on peut en déduire quelques enseignements. On voit que sont concernées les entreprises de 6 États membres de l'UE, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, surtout la France, 8 affaires, l'Espagne 7, l'Italie 5. Ça concerne différents secteurs des investissements. On se rappelle de toutes les affaires concernant l'eau, la gestion de l'eau à Buenos Aires en particulier, l'eau, l'électricité, les transports, le gaz, le pétrole, les télécoms, mais aussi les finances et les services informatiques. Les références juridiques sont des TBI de 90 ou 91, souvent bilatéraux. On a un traité trilatéral, Argentine, Belgique, Luxembourg. On relève même des cas où une société argentine attaque l'État argentin, c'est possible, avec les autres plaignants. Et on constate que ces affaires ont été bien coûteuses pour l'Argentine, en frais d'avocat, en indemnisation, avec la dette notamment de l'Argentine à l'égard d'Engie, des affaires en tout cas mal vécues par l'Argentine. Alors l'Argentine, c'est vrai, avait voté contre la convention Sirdi, historiquement, quand la convention a été préparée, la convention de 65. Et puis l'Argentine, elle s'est ralliée au Sirdi, concrètement, alors que le Brésil a boudé toujours, a maintenu sa souveraineté face au Sirdi. Et l'Argentine a même menacé de se retirer du Sirdi ces dernières années. Même un projet de loi avait été déposé au Congrès en 2012. Mais l'Argentine est revenue à de meilleures dispositions. Semble-t-il, sous la pression de l'Union européenne, c'est bien réel, l'Argentine, finalement, a conclu un accord d'indemnisation avec la société espagnole Repsol, affaire liée à l'expropriation de 2012. Donc ces États, vous voyez, sont dans des situations quand même très différentes vis-à-vis des modes de règlement internationaux en matière d'investissement. Et s'ils font des efforts, semble-t-il, c'est pour... pacifier, pour instaurer de la confiance, mais plutôt à l'échelle régionale. Là, on a des projets intéressants. Donc, je vais vous parler un peu des efforts d'intégration du Mercosul vis-à-vis des investissements croisés. On a vraiment des textes nouveaux, un protocole même en discussion. Est-ce que les discussions vont être poursuivies? Je ne sais pas, du côté du Brésil. Donc le système de règlement des différends dans le Mercosul s'est construit au fil de nombreux traités. On ne va pas détailler ces procédures-là en une minute. Tout part bien sûr du traité d'Asunción qui a fondé le Mercosul. Prévoyait un mode de règlement des différends. Cela a donné le protocole de Brasilia pour le règlement des différends très 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 vite après le... Le premier traité, puis le protocole d'Ouro-Preto est venu réformer, créer la commission du commerce, qui, je crois, joue un rôle important en matière d'investissement, avec des procédures pour les différents de gouvernement à gouvernement, pour les différents entre États et entreprises. Mais on voit que c'est toujours médiatisé par l'État. On n'a pas donné des droits à l'entreprise, c'est toujours médiatisé par les États concernés. Et puis, on a le protocole de Olivos, qui crée le fameux tribunal permanent de révision. Alors, on peut lire que cela a apporté une juridictionnalisation du mode de règlement des différends. Seulement, je parle sous le contrôle de mon collègue, il semblerait que ce tribunal n'ait pas de compétences matérielles explicites pour le règlement des différends relatifs à l'investissement et que ça ne fonctionne pas pour ce secteur-là. Donc, je pense qu'on en reste à une situation de forum shopping. Les États membres du Mercosur ont le choix. Et il joue de cette liberté, soit s'adresser au juge ordinaire, et il existe un protocole d'ailleurs de Las Leñas sur les mesures d'assistance judiciaire, pour assister les relations entre États dans ce cadre-là. Ils peuvent faire appel à cette commission du commerce, avec intervention en fait, de l'organe politique, le groupe du marché commun, qui est une institution du Mercosul, ou éventuellement ils font appel à l'arbitrage, obligatoire et contraignant, mais sans garantie d'uniformité, dans la mesure où ce n'est pas le tribunal permanent de révision qui, dans ce domaine, pourrait assurer l'uniformisation de la jurisprudence. Donc c'est sans doute pour réagir à cette situation de forum shopping qu'un nouveau protocole a été présenté. Alors il s'appelle le protocole de coopération et de facilitation des investissements intra-Mercosul. C'est un protocole qui part d'une idée brésilienne, puisque le Brésil a déjà un modèle du même nom, accord de coopération et de facilitation de l'investissement, les ACFI. Qui sont déjà opérationnels, qui ont été utilisés justement pour signer tous ces nouveaux accords avec des pays étrangers. Alors ce modèle, il est déjà intéressant, ce modèle brésilien. Et d'ailleurs l'OMC, dans son rapport d'examen, note qu'un nouveau modèle d'accord concernant les investissements qui plus est reprenant les lignes directrices de la CNUSED et de l'OCDE, a été utilisé déjà pour négocier et signer les accords de promotion et de protection des investissements dont la ratification est en cours. Donc l'OMC note aussi ce frémissement, cette ouverture et l'usage de ce nouveau modèle. Alors, il y a beaucoup de choses d'intéressantes, évidemment, dans ce modèle. On peut souligner la forte dimension développement durable. Il y a une dimension RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui est originale dans ce modèle d'accord. On invite les entreprises aussi à faire des efforts, à se mettre un peu au service de la protection de la vie humaine, animale, végétale. Je pense qu'on reconnaît bien là quand même aussi une culture brésilienne. Et puis, on y trouve, bien sûr, des dispositions en matière de prévention et de règlement des différends. On l'a évoqué ce matin, ça passe par l'ombudsman, cette étape de médiation. On invite les entreprises à discuter. Ce qu'on veut créer, c'est un climat de confiance, plutôt que d'imaginer une cour supranationale, ce qui est hors de question pour les États du Mercosur. Ben, on cherche à pacifier, à créer un bon climat pour les affaires avec cet ombudsman, l'idée de médiation, où les investisseurs vont pouvoir échanger avec les États. On a un comité conjoint pour la coopération, la prévention des différends. Et puis, si vraiment les parties ne parviennent pas à s'entendre, on prévoit que les États peuvent lancer un arbitrage international en dernier recours. Mais il n'y a rien dans ce modèle sur l'arbitrage investisseur-État. En tout cas, je n'ai rien trouvé qui permette cela. Donc c'est en quelque sorte un nouvel équilibre entre l'absence de TBI, puisque le Brésil n'avait pas voulu s'engager, entre l'absence de TBI et le modèle traditionnel de TBI, une voie alternative en quelque sorte proposée par le Brésil entre ces deux modèles classiques. Et ça fonctionne déjà, puisque des accords ont été signés avec des États africains, des États latino-américains, les négociations achevées avec l'Inde et la Jordanie. Et cette fois-ci, le Parlement brésilien suit. Il autorise la ratification, semble-t-il. Donc c'est ce modèle-là, avec un esprit nouveau, qui est mis au service du Mercosul, puisque le Brésil a proposé, des discussions ont eu lieu dans un cercle de travail, proposé pour en faire une sorte de protocole, un véritable protocole, au traité d'Asunción. Ce serait un nouveau protocole, il est même daté du 7 avril 2017. Donc on retrouve cet état d'esprit nouveau. Les États doivent organiser l'accès à la justice. Il y a bien sûr des dispositions sur l'expropriation. Ce qui me paraît intéressant, c'est le langage de ce protocole, si j'ai bien compris en portugais. On a voulu bannir ce que j'appellerais des motifs du langage globalisé, c'est-à-dire ces fameuses expressions, vous savez, de traitement juste et équitable, pleine sécurité, protection, qui sont très vagues et qui autorisent des interprétations pas forcément respectueuses de la souveraineté et des États qui ont des politiques de développement. Donc on essaye d'inventer aussi de nouvelles formules. Alors ça donne des choses plus rigoureuses du point de vue juridique. On essaye d'encadrer avec des termes de langage aussi plus stricts, plus resserrés. Et on retrouve les dispositions sur la responsabilité sociétale, la lutte contre la corruption, on retrouve cette dimension, disons, éthique. Et puis les dispositions sur la gouvernance institutionnelle et la prévention des différends, avec, même idée, le point de contact et l'ombudsman, les échanges entre les États du Mercosur en matière surtout de législation. Je crois que ce serait important pour vous de faire connaître vos législations réciproquement. Donc il y a tout un effort pour rendre transparentes ces législations sur l'investissement. Ça, c'est bon pour la confiance. En ce qui concerne les différends, alors là, on retombe sur les limites classiques. Il n'y a rien de très original. Il y a toujours une phase devant la commission. Et puis, en dernier recours, on va se tourner vers le mode de règlement qui est en vigueur dans le Mercosul. Et on retrouve des limites quand même. Il est dit, par exemple, que le recours à cette seconde phase n'est pas possible au-delà d'un délai de 5 ans et n'est pas possible pour les questions sociétales, justement. Donc on avance, mais on limite en même temps. On ouvre l'accord aux questions sociétales, mais on verrouille au niveau des mécanismes de règlement des différends. Donc ce protocole n'est pas entré en vigueur. Je ne sais pas si votre président va reprendre cette idée. Il me semble que le Brésil est un leadership sur cette question vis-à-vis de l'Argentine. Il n'est pas entré en vigueur, mais peut-être qu'il pourrait quand même inspirer cet autre modèle sans aller vers une cour, justement, des conditions différentes de confiance entre les parties publiques et privées, une sorte de partenariat finalement public-privé dans des comités, des structures souples, sans ajouter encore des structures institutionnelles nouvelles. Voilà. Alors mon collègue va faire un focus plus sur le droit constitutionnel brésilien, parce qu'il est professeur de droit constitutionnel et spécialiste des dispositions de votre constitution.
Bonjour à tous, Monsieur Pierre Révy, Madame Isabelle Monica. Tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite par le professeur et ami Abdou. Je voudrais saluer le professeur et ami Isabelle aussi. Spécialement par votre conférence ici. Et puisque nous allons parler sur les droits d'investissement, je pense que le meilleur investissement à faire dans notre vie est l'investissement dans l'amitié. Merci beaucoup. Selon Edivaldo Boaventura, mon cher professeur à l'Université de Bahia, pour parler bien, il faut parler fort pour être entendu et surtout, il faut parler peu pour être applaudi. Donc, je parlerai peu, messieurs, dames. Et dans une introduction, il faut dire que le Brésil a toujours été très rebelle en acceptant les normes internationales relatives aux investissements étrangers dans les pays, même si cela n'est pas eu d'incidence négative sur la continuité des investissements étrangers dans notre pays. Selon les 5 derniers rapports sur les investissements étrangers de l'International Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, UNCTAD, il est à noter que le Brésil oscille entre la 4e et la 14e position sur un total de 20 pays évalués en attraction d'investissement. Il est donc important d'examiner la réglementation des droits des investissements au Brésil, à commencer par la Constitution de 1988. Et en ce qui concerne la Constitution brésilienne de 1988, il est nécessaire d'informer que l'ancienne dichotomie entre entreprises brésiliennes et entreprises brésiliennes à capital national, article 171, n'existe plus. Ainsi, le traitement juridique privilégié qui existait dans le passé a été supprimé par l'amendement constitutionnel numéro 6 de 1995. Les entreprises étrangères qui envisagent d'investir au Brésil doivent savoir qu'il n'y a pas de traitement différencié pour les entreprises nationales comme c'était avant 1995. Bien que le Brésil n'occupe pas une position dominante en tant que pays d'origine des investissements, pardon. On peut toutefois noter une croissance importante d'internationalisation des entreprises brésiliennes, accompagné d'une augmentation des investissements brésiliens à l'étranger. Par conséquent, nous pouvons voir des situations liées au droit d'investissement au Brésil. La première, dans les années 90, tirée par les économies développées intéressées à investir au Brésil et à offrir à leurs ressortissants une protection et une sécurité juridique pour l'investissement. La deuxième, à partir du milieu de l'année 2000, était dirigée par l'industrie brésilienne soucieuse de protéger ses activités dans les pays de destination de sa capitale, notamment en Amérique du Sud et plus récemment en Afrique. Les premiers accords brésiliens sur les droits des investissements a été conclu avec les États-Unis en 1960. Mais il n'y avait aucune référence sur la protection des investissements étrangers. Et sur le cas d'Argentine. En Argentine, a fait quelques accords et le gouvernement argentinien a signé un accord avec l'Italie, avec Panama et avec autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et en ce qui concerne la solution des controverses dans les pays d'Amérique du Sud, l'option générale a toujours respecté la doctrine Calvo. Monsieur Bianchi a dit bien les contenus de la théorie de la doctrine Calvo. C'est-à-dire laisser les lois et juridictions nationales réglementer les traitements des investissements étrangers. Mais cette situation a duré jusqu'à début des années 90, lorsque le Mercosur a été officiellement lancé. Cependant, la première initiative visant à résoudre les différends relatifs aux investissements dans les pays d'Amérique du Sud a été lancée avec l'Union des Nations de l'Amérique du Sud, UNASUR, qui a créé les centres pour les règlements des différends dans en matière des investissements et pour l'initiative du Équateur. Mais le Mercosur n'est pas inerte quant à la résolution des différends relatifs aux investissements. Le sous-groupe de travail DOSE a été créé par les groupes de marché commun dont les principaux objectifs sont 1. D'analyser les difficultés rencontrées par les États parties dans l'approbation et la mise en œuvre des protocoles de Colonia et de Buenos Aires. 2. Préparer des rapports sur les flux des investissements dans la région. Et 3. établit des règles générales sur les investissements sur les territoires de chacun des États parties. Mais il ne faut pas oublier les protocoles d'Olivo de 2002 qui a créé les TPR, Tribunal de Révision Permanent, qui permettent aux personnes morales et physiques d'avoir accès aux informations dont les intérêts ont été lésés par des actes souverains des États parties. Mais le Mercosur ne dispose pas d'un système efficace pour résoudre les différends relatifs aux investissements, ce qui devrait redéfinir les rôles de l'ETPR, par exemple, en admettant un arbitrage mixte. Mais l'avenir du Mercosur ne semble pas être prometteur, malheureusement. Et je n'ai pas besoin d'être un prophète pour conclure comme ça. Au moins, en ce qui concerne les futurs gouvernements brésiliens, le Mercosur ne sera pas une priorité. Il est sorti du droit des investissements dans les Mercosur est lié au destin du bloc régional lui-même. Ainsi, selon la presse brésilienne, le prochain ministre des Finances, Paulo Guedes, a déclaré que le Mercosur ne sera pas une priorité. Cela est parfaitement vrai dans la déclaration du président élu Jair Bolsonaro, selon laquelle les relations internationales du Brésil favoriseront une plus grande approximation avec les pays les plus riches du monde, tels que les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et le Japon. Mais je pense, comme j'ai dit au matin, qu'il ne va pas faire ce qu'il a dit parce qu'il a été élu par 58 millions d'électeurs, mais il y a 45 millions d'électeurs qui ont choisi autre candidat. Donc, nous avons aujourd'hui un pays qui est divisé entre la droite et la gauche. Je pense que les droits dans l'investissement est actuellement confronté à un défi majeur. Survivre aux politiques économiques protectionnistes élaborées par des dirigeants politiques qui n'ont pas encore compris qui sont les multilatéralismes. Il n'y a de salut pour personne. Merci.